9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé avec Nadia Elbouga. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Sage-femme et sexologue clinicienne, ça veut dire quoi clinicienne?
Ah. C'est-à-dire que j'utilise la clinique, donc les paroles, mais également le corps, et peut-être surtout le corps, pour pouvoir poser un diagnostic et accompagner au mieux les femmes et les hommes que je reçois.
Voilà, que vous accompagnez. Ça fait plaisir de vous retrouver. Nadia, notre invité aujourd'hui s'appelle David Nguyen. Bonjour et bienvenue David.
Bonjour Philippe. Bonjour Nadia.
Bonjour. Alors, bonjour à tous. Voilà, on vous entend pas beaucoup parce qu'on a pas, on vous a pas monté votre micro, mais là on vous entend là. Voilà,
c'est parfait. Parle timidement alors.
Bon, bah, vous allez voir, il y a pas besoin d'être timide avec nous. Vous publiez Red Ambition, David, aux éditions Nombre 7. C'est votre premier livre,
oui.
Un livre qui aurait pu s'appeler Paris-Marseille, la loose totale.
Oui, c'est vrai.
Et pourquoi ça s'est pas appelé, Paris-Marseille?
Parce que finalement, j'ai atteint Marseille. Mais c'est vrai que tout le long de la route, c'est ce que je me disais, que j'aurais pas dû l'appeler ce... Enfin, j'aurais pu l'appeler comme ça, ce livre, parce que j'ai fait peut-être environ presque 1000 km et j'ai failli abandonner plus de 1000 fois. Quoi,
donc, voilà, 1000 km à roller, puisque vous avez relié Paris à Marseille. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous passez votre première nuit sur un quai de gare et vous passez votre dernière nuit dans un aéroport.
Oui, oui. Oh oui, puis par la suite, beaucoup d'autres raids ont suivi, puis la plupart des nuits sont faites au bord de la route sur des arrêts de bus. Hein, donc, Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs la couverture, on y voit un abribus, parce que finalement c'était un lieu de voyage et de passage.
Ouais.
Voilà, idéal pour rester sur la route et reprendre la route.
Ce premier raid, hein, vous le bouclez en 9 jours.
Hein, à la grande surprise, oui.
Ouais, Paris-Marseille. Je crois que personne, hein, tant qu'on a commencé à être sur la route, ne réalise à quoi ça correspond, hein, un tel raid, et pour la tête et pour le corps. Hein.
Alors en fait, j'ai un double regard. J'ai celui de avant de le faire, où ça me paraissait énorme, où ça faisait même, c'était effrayant, parce que j'avais jamais dépassé la rue de mon quartier ou la ville d'à côté. Et donc j'ai le regard où on part et que c'est impressionnant, et au final j'ai le regard qu'on l'a fait et qu'on réalise que tout le monde peut le faire et où on peut faire beaucoup plus. Par la suite j'ai fait plus, hein, par la suite j'ai fait d'autres voyages plus grands, mais aujourd'hui je me rends compte que finalement c'est le plus dur, c'est que de partir.
Mmh. Toujours à roller.
Toujours à roller, mais après peu importe, soit à roller à pied, en pirogue ou en voiture, peu importe, il y a des gens qui font des road trips partout dans le monde et il y en a qui font des tours du monde à pied. Donc finalement le plus dur c'est vraiment dans la tête, c'est de partir. Mmh.
Et vous dites que finalement, cette aventure, votre subconscient le savait.
Oui, mais ça, je ne l'ai pas su tout de suite. Alors quand je suis parti, c'est une époque où je souffrais beaucoup. Et je ne me rendais pas compte. Pour moi, c'était plus une fuite. Je voyais ça comme, voilà, je pars, de toute façon, je n'y arriverai pas, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, il y a beaucoup de symbolique dans le fait de partir, puisque après coup, je me suis rendu compte que c'était partir, avancer, ne jamais aller en arrière, ne plus regarder en arrière. C'était avoir un objectif, c'est tout ça. Et finalement, c'est vrai que partir, c'est vraiment symbolique. Mais physiquement, ça prend une ampleur encore plus grande parce qu'on a la fatigue physique, on a tout ça qui s'accompagne avec le mental. Et c'est vrai qu'il n'y a que là qu'on peut se... C'est peut-être un grand mot, mais on peut se transcender. Où on peut penser au-delà de ses propres pensées ou réaliser des choses qu'on savait inconsciemment et les savoir consciemment. Et je pense qu'il n'y a que dans l'effort physique et mental qu'on peut casser ces barrières-là.
Mmh. Ouais. Mais le premier raid que vous allez entreprendre, c'est un raid thérapeutique, en fait.
Oui.
Même si c'était pas le sens forcément.
Exactement.
Que vous lui donniez.
Exactement. Mais... même si c'était pas le but, parce que j'en avais aucune conscience, je peux que reconnaître que c'était un raid thérapeutique, c'était me soigner. Mmh. Avant tout, oui, c'est tout à fait ça.
Vous saviez que vous aviez 1000 km à faire, en gros. Vous deviez aller droit devant. Et dans le rétro, vous aviez votre passé.
Exactement. Mais c'est pour ça toute cette symbolique de laisser tout derrière soi. Et je suis parti de la place de la Bastille. En plus, c'était symbolique pour moi en tant que Marseillais. J'allais à Marseille et on connaît l'histoire de la Révolution, la Bastille, etc. Mmh. Et pour moi, c'était une révolution à l'envers, une révolution interne. Ça, c'est des esquisses de pensée que j'avais déjà conscience un peu de tout ça, mais que je ne réalisais pas parce que pour moi, je n'allais pas le réussir de toute façon ce raid. Je partais, je pensais que j'allais finir en train ou revenir à Paris, tout simplement. Et finalement, non, c'est vrai que ça a été une vraie révolution. Mmh. Et
Et vous alliez vers, en plus, vers votre ville natale. Donc c'était une forme de renaissance.
Ouais. Hein. Et en plus, à l'époque, j'avais ma famille qui était très loin. Ils n'étaient même pas à Marseille, ils étaient encore plus loin. Et j'avais que ma sœur à Marseille.
Ils étaient outre-mer, comme on dit.
Ouais, exactement, ils étaient à La Réunion. Et c'est vrai que finalement, je rejoignais ma terre natale, une partie de ma famille, mes sources. Et quand on dit tout le temps, j'ai besoin de me ressourcer. Et c'est vrai que je l'ai dit moi-même hein, avant, quand dans la vie active, on dit aux gens, je vais me ressourcer, je vais en week-end ici ou là. Et là, c'est vrai que ça prenait toute son ampleur. C'était, je renaissais. C'est vraiment, je partais pour une nouvelle vie.
Alors, en sachant que ce défi, finalement, que vous êtes posé, n'a pas été du tout réfléchi. Il partait d'un échange avec camarade à l'époque, camarade de BTS.
Ah oui, c'est...
Qui, avant la fin de l'année, de vous demander où vous alliez passer l'été.
Oui, alors...
Qu'est-ce que tu fais pour les
d'aventure, vacances ouais. D'aventure, j'ai dû reprendre les études. Et j'ai fait un truc classique, vraiment passe-partout, un BTS management. Sans savoir à quoi ça me servait, j'en avais même pas envie de toute façon, mais je le faisais pour faire plaisir un peu à qui je devais des comptes, c'est un peu la justice, tout ça. Et en fin d'année, tout le monde, bon alors j'étais le plus âgé de la classe, bien sûr, et en fin d'année, tous les je dirais pas les gamins, les jeunes de ma classe qui partaient en vacances, qui racontaient leur futur hôtel, etc.
Certains allaient à New York.
On m'a dit, toi tu vas où ? Alors, tout le monde avait une histoire fantastique à raconter. Tout le monde disait, moi je vais à New York, moi je vais là-bas, je vais à l'hôtel ici. Et moi j'avais pas de sous, j'avais rien, j'étais en galère totale. Déjà, j'ai vécu dans un foyer, j'avais du mal à payer le foyer. Et comme ça, de but en blanc, vu que j'avais toujours les rollers au pied tous les jours, j'ai dit, ben moi je vais à Marseille en roller. Mais c'est vraiment une phrase qui est sortie toute seule, presque pour impressionner les gens, pour me donner un peu d'importance, peut-être pour un peu comme quelqu'un de mytho qui peut dire ça pour impressionner parce qu'il a rien d'autre à faire dans sa vie. Et en fait, je me suis piégé tout seul. Parce qu'en le disant, je me suis rendu compte que si je le faisais pas, je passerais
pour
un con.
Vous n'étiez plus crédible, oui.
Ouais, je passerais pour un idiot. Et je me suis dit, c'est un défi. Voilà, et je me suis mis face à moi-même. Je me suis dit, je vais relever le défi. Et sans savoir où ça me mènerait, quoi.
Ce qui était bien, c'était d'avoir des gens à témoin, quoi.
Ouais, exactement. Et en fait, par la suite, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Parce que c'est peut-être ma personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, peut-être pour tenir leurs objectifs. Il y en a qui sont peut-être plus forts que moi mentalement pour dire je veux ça, je le fais pour. Et moi, j'ai besoin de me mettre dos au mur. J'ai besoin de me mettre dans l'obligation de ne pas décevoir et donc d'annoncer. Je prends toujours quelqu'un en témoin ou je le fais à la rigolade ou alors je le fais d'une façon plus discrète. Mais je fais en sorte que quelqu'un soit au courant. Pour moi, ne pas me sentir obligé de le faire. Moi, c'est peut-être une faiblesse quelque part, d'avoir besoin de ça. Mais peu importe, hein, moi je me connais et puis c'est comme ça que j'opère. Et ça a toujours marché. Pour l'instant, ça a toujours marché.
Bon, là ça y est, le livre est paru, David, donc il ne vous appartient plus. Ouais. Des gens vont lire votre histoire. Des gens qui vous connaissent vont lire votre histoire. Des gens qui croient vous connaître vont lire votre histoire. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, ça y est, c'est fait, c'est écrit, c'est dit. Bon, ouais. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Non. Bon, alors, je ne sais pas comment on va parler, parce que même moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette interview. Au départ, je ne savais pas où vous nous ameniez, parce que moi, votre histoire, je ne la connaissais pas. Donc, je ne savais pas où on allait.
D'accord.
Je pensais qu'on était sur une histoire de femme battue, si vous voulez savoir. D'accord. Et je me suis dit, on est dans la thématique des femmes battues. Donc, j'ai dit, où il nous amène ? Et finalement, vous expliquez que quand on a des problèmes dans la vie, il faut toujours le dire.
Oui, ça, c'est une des premières choses. Ça, ouais,
qui commence avec ça, d'ailleurs.
Bon. Mais par contre, vous avez du mal à nous dire ce qui vous est arrivé, quand même.
C'est vrai.
Vous dites, il faut tout dire dans la vie, mais... À un moment donné, vous nous expliquez ce qui vous est arrivé, mais comme ça, abrupt, brutalement. C'est-à-dire qu'on est dans une histoire, qui est l'histoire que vous avez eue avec votre ex-compagne.
Ouais,
et c'est le début de ce que vous appelez votre descente aux enfers.
La descente en enfer.
Voilà, la descente aux enfers. C'est qu'à un moment donné, votre vie, elle est super, elle est bien, vous êtes gardien de la paix, vous faites un métier dans lequel vous ne pensiez même pas... pouvoir vous exprimer, être aussi bon. Vous aimez votre vie.
Ah oui, complètement. Oui.
Et un jour, vous êtes convoqué par votre capitaine.
Ouais. Et grande surprise en plus, parce que franchement, je ne m'attendais pas. Alors, je suis convoqué et on me dit que j'ai rendez-vous à l'IGS, l'Inspection Générale des Services.
Voilà.
Police des polices.
Par contre, là, vous savez que quand on a rendez-vous à l'IGS, pas toujours pour...
Alors après, oui et non, parce qu'en réalité, vu que je n'avais rien à me reprocher, ou du moins, moi, je n'en avais pas conscience, hein, je me suis dit, bon, ce qui est courant aussi dans la police, c'est qu'on peut être amené à être interrogé parce que un individu lambda a contesté une arrestation oui. ou une amende, etc. Donc des fois, on peut très bien être convoqué parce que quelqu'un a dit qu'on était raciste. Ou... Je me suis dit, bon, si ça se trouve, j'ai mis un PV à quelqu'un, il conteste, il dit que je l'ai insulté, je m'explique, et peut-être. Mmh. Je voyais vraiment que ce genre de choses parce que je voyais pas. Et c'est vrai qu'en réalité, c'est mon ex-compagne de l'époque qui avait déposé plainte contre moi. Et je l'ai découvert parce que
pour coup, enfin
ah oui, pour des choses graves, coups et blessures, séquestration, menaces avec armes, des choses très graves. Mmh. Et mais en fait, je comprends très vite le ton très vite parce que dès que j'arrive à l'IGS, arrivé à l'étage quand je suis pris en charge par des ce que j'aurais pu appeler des collègues, mais
c'était la famille.
C'était de la famille. quand on nous prend par le cou comme si on était un criminel comme ça, sans avoir même eu le moindre jugement, la moindre audition, et qu'on nous menotte. Violemment dans une chaise en nous disant maintenant c'est en garde à vue et tu vas t'expliquer sur ce que t'as fait à ta femme comme ça de but en blanc enfin. Mais j'ai compris le ton de suite, surtout que ça est allé très très vite hein, ça est allé très vite dans les menaces de on va te faire un dossier, tu vas tomber c'est impossible que tu t'en sortes, on va te faire regretter sans même que j'ai eu à m'expliquer. C'est vraiment
des gens qui vous connaissiez quoi, des collègues?
Non, pas du tout, je les connais pas. C'est des collègues. C'est comme si vous connaissez
des collègues de profession.
De profession, voilà, c'était pas des gens que je connaissais personnellement du tout. Mais c'est des gens manifestement qui ont très vite pris parti, en fait, pour mon ex-compagne. Après, je m'attardais pas là-dessus dans le livre parce que c'est pas le propre du sujet.
Oui.
Mais ça commence comme ça.
Mais ça commence comme ça. Mais oui, vous dites qu'en fait, ouais. C'est à ce moment-là où vous commencez à basculer.
Oui.
Oui, parce qu'en fait, votre.
Ça vous tombe dessus.
Ça bascule comme ça d'un coup.
Ça vous tombe dessus sans prévenir. Et puis vous étiez jeune aussi.
Oui, c'était donc c'était en 2006. Oui. Donc c'était il y a 13 ans et j'avais donc 24 ans.
Oui.
Ouais, donc j'étais jeune bien sûr. Mm-hmm. Mais après peu importe l'âge hein, moi j'ai il y a beaucoup d'histoires de gens qui se séparent, qui divorcent, etc. Mm-hmm. À 50 ans, à 60 ans, mais à 20 ans peu importe l'âge, c'est toujours quelque chose de dur. Mais là la façon dont ça s'est fait, c'est d'un coup perte d'emploi, perte de dignité. Mm-hmm. Garde à vue, alors qu'on est gardien de la paix, des ferments immédiats, plus rien. Enfin, vraiment, et en plus, loin de sa famille, à Paris. En plus, tout est allé mal à ce moment-là, parce que c'était le moment où j'en souris, mais c'est nerveux. Hein. Je suis en colocation à ce moment-là, et c'était le mois en plus où on arrêtait la colocation. Donc en réalité, mon colocataire partait, et moi, je devais me rechercher un appartement. Mais sauf que là, j'avais plus rien à justifier, de salaire ou autre.
Ouais. Ah oui, c'est vraiment la bascule
en fait,
totale.
Tout s'enchaîne, oui.
Tout d'un coup, à la rue. Mmh. À la rue. C'est-à-dire que j'ai vite fait un double des clés de ma cave de l'époque pour aller dormir discrètement la nuit.
Ce que vous expliquez pas dans le livre.
Non, ça je le dis pas.
Parce qu'il y a toute une partie de votre galère que vous n'expliquez pas, qu'on comprend
mais
après.
C'est très long. Il donne des éléments. Par exemple, il explique vous alliez dans des parkings.
Il y a un passage, voilà.
Pour pouvoir tester en fait les portes de voiture.
Exactement.
Voir
je sais plus c'est quel passage exactement. Je l'ai noté quelque part.
Mais on sent que vous avez été dans la rue un moment quoi. En tout cas.
Oui. Ah mais
sans domicile fixe.
Je le raconte pas au début. Il y a un passage dans le livre où effectivement je raconte que la nuit, je cherchais des voitures avec les portes ouvertes ou des caves ou des halls pour pouvoir dormir au chaud. Ça a pas duré non plus très longtemps cette période-là. Et puis c'est aussi quelque part ce qui m'a conduit ailleurs dans un autre enfer parce que j'ai eu la malchance aujourd'hui, la chance et la malchance de plaire aux filles. Et c'est vrai que ça c'est devenu très vite pour moi. presque comme une obligation de dormir chez quelqu'un. Et donc, je draguais des filles, etc. Et je me débrouillais pour qu'elles m'invitent chez elles. Et je faisais comme si de rien n'était, comme si j'avais un chez moi, mais que ce soir, je dormais chez elles. Et,
une obligation sauvetage, en fait.
Ah oui, complètement. Je ne savais plus comment faire. J'avais plus rien. Plus rien. Et en plus, j'avais les impôts qui tombaient, etc. Avec plus rien à les payer pour les payer. C'était... Enfin bref.
Et pourtant, vous vous êtes pas défendu. En fait, on a envie de vous secouer au départ.
Alors,
parce que vous dites tout ça, c'est faux, tout ça, c'est bidon, tout ça, c'est inventé. Elle change sa version, mais vous vous défendez pas.
Mais
pourquoi
tout en sentant la sidération.
C'est vrai que. Mais en réalité, je me suis défendu. Mm-hmm. Mais sauf que déjà, première étape, c'était l'audition. Enfin, déjà, à l'audition, je dis ma version. Déjà, quand ça commence par. Vous savez comment il se passe une audition, vous racontez, et un officier ou enfin un agent note en direct ce que vous dites, à la fin il fait signer votre procès-verbal pour que vous reconnaissiez ce que vous avez dit. Sauf que moi tout ce que j'avais dit, il le déformait déjà, dans le PV d'audition. Et j'avais beau dire non.
C'est pas ça que je vous ai dit.
Voilà, ouais. Il déformait, c'est-à-dire que il exagérait tous mes propos ou il les minimisait quand c'était en ma faveur. Mmh. Et donc j'ai dû signer ce torchon malgré moi, par la fatigue, etc. À la confrontation, deuxième chose, le lendemain, il y a une confrontation avec la personne, avec mon ex-compagne, pareil. La confrontation, déjà pendant la confrontation, je suis intimidé. Déjà, je suis fatigué, j'ai pris un coup dans le moral, etc. Pendant l'audition, on met des coups dans la chaise, on met des coups dans le dos, on m'insulte. Et pendant que je parle, on me coupe la parole. Elle, quand elle parle, en plus en exagérant tout et en déformant tout, par rapport même déjà à l'audition, moi, quand je commence à contester, on me dit de me taire, etc. Déjà, j'ai pas pu me défendre. Arrivé au tribunal, pareil. Avant le tribunal, déjà l'avocate, alors là, j'y connaissais rien du tout, même si j'étais gardien de la paix, mais j'avais jamais eu recours à un avocat. Et l'avocate, j'avais pas de sous, donc j'en ai pris une que je pouvais avec les aides
commis d'office. Ouais.
L'avocate, elle me voit une fois, je lui raconte mon histoire, elle me dit ok, je vais prendre votre dossier en charge, etc. Et je la vois plus, jusqu'au procès. Au procès, je vois pendant le procès que la partie adverse exagère le propos encore plus. Mmh. Et au moment où je cherche à me défendre, mon avocate, elle ne dit rien. Donc c'est vrai que je ne me défends pas. En fait, je n'ai pas les moyens de me défendre. Mmh. Et à ce moment-là, quand la sentence tombe et qu'on a 10 jours pour faire appel, qu'en plus votre propre avocate vous intimide de le faire parce qu'elle va dire attention, vous risquez de prendre plus, etc. Mais en fait, j'ai pas eu la force de le faire.
David Nguyen est notre invité. C'est son histoire qu'il nous raconte. Et ce chemin pour sortir de l'enfer jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Nadia Elbouga est avec nous. Nadia, nous avons un invité, il s'appelle David Nguyen. Et David, vous publiez Red Emption en deux mots aux éditions Nombre 7. Donc c'est votre histoire que vous racontez. Hein. Vous expliquez qu'il y a des fois où la vie te met des gifles tellement fortes, où tu te dis que c'est peut-être pas possible que ce soit pire et que tu ne pourras pas tomber plus bas. Et pourtant si, finalement. Mmh. Quand on commence à tomber, on ne sait pas jusqu'où on peut tomber.
Ah oui, moi j'ai découvert ça... en fait, je me suis rendu compte que finalement, jusqu'à la mort, on peut toujours retomber, toujours plus bas. Mmh. Et malheureusement, c'est cette confiance aveugle au fait qu'on peut pas tomber plus bas qui m'a mené à tomber plus bas. C'est que j'imaginais même pas. Là, on est vraiment dans un sujet très subjectif, c'est-à-dire les souffrances, la tolérance aux souffrances, etc. C'est les gens, à quel point ils peuvent supporter tel événement de leur vie, qui peut être bénin pour l'un ou très grave pour l'autre. Mmh. Et ce qui était déjà très grave pour moi à cette époque-là, qui peut être bénin pour quelqu'un d'autre, c'est la rupture avec quelqu'un, la perte d'un emploi, etc. Et ben, j'ai réalisé que ça pouvait être pire encore. Mmh. Parce que...
Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que vous ne vouliez pas être confronté à ça. Vous n'avez pas voulu être confronté à cette façon de votre vie qui vous échappait. Donc, vous avez inventé un autre personnage pour qui tout allait bien, finalement. Oui. Et vous vous êtes installé, comme vous dites, dans le déni.
Ah oui, complètement. Et bien sûr, celui qui vit dans le déni n'en a pas conscience. Sinon, il ne le saurait pas. Mais c'est vrai que moi, à cette époque-là, tout ce qui comptait pour moi, c'était de paraître. Parce que mais malgré tout, je vivais parce que je n'arrivais pas à mourir. Enfin, c'est un peu... Idiot à dire peut-être, mais j'avais pas le courage de me tuer.
C'est ce que vous disiez, j'ai pas eu le courage.
Ah, j'ai eu l'envie folle de mourir plein de fois. J'ai voulu sauter d'une fenêtre, j'ai voulu prendre des médicaments, j'ai réfléchi, ça me trottait, j'écrivais des lettres pour me préparer à le faire et j'arrivais pas à le faire. Donc malgré moi, je continuais à vivre. Et quand on vit malgré soi, il faut continuer à vivre. J'ai continué, j'étais au travail, j'étais à l'école, j'ai fréquenté des gens, etc. Mais comment faire? Moi, la seule façon que j'ai trouvé, c'était de faire semblant. Parce que.
Mais semblant de quoi?
Semblant d'être heureux, semblant de. Qu'il m'était rien arrivé. Parce que pour pas que les gens me parlent, pour pas que les gens me posent des questions. En fait, je fuyais tous ces événements. Du coup, si quelqu'un était au courant, je ne pouvais plus fuir. Quand vous êtes face à quelqu'un qui connaît votre vérité, vous pouvez pas lui mentir. Mmh. Et du coup, j'étais obligé de me façonner tout un monde entier où personne ne sait ça. Pour moi-même supporter l'idée. Que ça m'est arrivé, mais que voilà, c'est comme s'il m'était rien arrivé.
Est-ce que vous n'étiez pas plutôt dissocié? C'est-à-dire, ouais, du coup, il y avait plutôt le David de la nuit et le David de la journée.
Oui, j'en parle dans le livre d'ailleurs. Le David de la journée, c'est celui qui s'appliquait à faire semblant. Mmh. Tout le monde disait que j'étais bien, toujours bien coiffé, parfumé, professionnel, etc. Mmh. Toutes les bonnes choses qu'on peut dire sur vous.
On ne pouvait pas se douter de vos difficultés.
Complètement pas. Et la nuit, par contre, c'est vrai que c'est un monde différent, hein, déjà, population différente, des occupations différentes. Et ça a été beaucoup l'alcool, beaucoup, quelques drogues, etc.
Ça commence par
et
ça. Beaucoup les femmes. C'est par une alcoolisation régulière, on va dire.
Oui, complètement. Ouais. Et déjà, l'alcool, j'ai réalisé que ça peut être bon pour oublier. Mmh. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui sont un peu fêtards ont déjà fait une soirée où ils ont un peu trop bu et qu'ils ont oublié ce qu'ils ont fait la veille et on s'est amusé, etc. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'était au quotidien. C'est, tous les jours, j'avais envie d'oublier. Enfin, j'avais besoin d'oublier. Mmh. Tous les jours. Du coup,
mais sans que ça impacte votre journée.
Non.
Dans la journée, vous étiez entre guillemets clean.
Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a une grosse dissociation qui a été faite. Mais quelque part, c'est peut-être, je sais pas comment dire ça, mais c'est ça qui était fort entre guillemets, c'est de réussir à jouer sur les deux tableaux à la fois et sans me perdre.
C'est peut-être déjà le premier des challenges, en fait, ouais, celui-là. Ouais. Mais peut-être que les gens l'ont vu, mais qu'ils ne vous l'ont pas dit.
Hein. Oui, je pense
parce
que...
Parce que moi, au début, sur la durée, je me suis dit que ça ne pouvait pas tenir. Parce que
ça ne peut pas tenir.
Voilà. Mais bon, en tout cas, les gens vous ont donné le change. Ils ont fait croire qu'ils avaient cru à votre histoire.
Bah, les gens, parce que c'était peut-être pas des gens assez proches aussi. J'avais pas beaucoup de proches à Paris. J'avais aucune famille. Donc les vrais proches que j'avais, c'était peut-être au travail et c'est vrai qu'ils n'étaient pas assez curieux, tout simplement. C'est pour ça que ça les contentait de savoir que j'allais bien.
À part une amie qui vous accompagnait.
Une amie que j'ai rencontrée à l'école. Mais en fait, comme on peut sentir des fois des gens, il y a une espèce de feeling qui se fait entre deux personnes qui se reconnaissent, de même valeur, etc. Ça peut arriver à tout le monde. Et moi, cette fille-là, c'est vrai que sans échanger trop, on sentait déjà qu'il y avait un truc. Et le jour où on a parlé, on s'est rendu compte qu'on avait des mots qui se voilaient la face et on se comprenait. Et elle-même avait fini par m'avouer qu'elle avait vécu le viol plus jeune. Et moi, je ne l'ai jamais avoué à cette période-là, mais elle a dû le comprendre par mes mots.
Pressentir qu'il avait vécu similaire.
Ça a été un des premiers...
Neurones miroirs.
Ouais. Ça a été une des premières personnes à me faire réaliser qu'il fallait peut-être que je parle. De toute façon, en réalité, on ne peut pas faire autrement qu'en parlant au bout d'un moment. Parce que...
Mais alors, attendez, vous dites que c'est vraiment la leçon de votre livre, c'est que quoi qu'il arrive, il faut en parler. Ouais. Mais si vous aviez dû en parler à quelqu'un, qu'est-ce que vous auriez dit? Par exemple, parce que vous racontez la façon dont vous l'avouez à votre mère.
Ouais, c'est brutal.
C'est brutalement. Voilà. Donc, si vous aviez dû en parler à quelqu'un, qu'est-ce que vous lui auriez dit à ce moment-là sur ce qui vous était arrivé?
Déjà, j'aurais dit que je ne suis pas bien. J'aurais fait en sorte que la personne prenne attention à mes paroles, prenne le temps de m'écouter, etc. Qu'elle soit dans un moment propice à avoir le temps de le faire. Et puis, en fait, je ne saurais pas dire ce que j'aurais voulu dire.
C'est simple, c'est pas évident. Hein.
C'est pas évident, même si je l'ai dit. Mais en plus, je pense qu'on a tous, chacun sa façon. Chacun, c'est son caractère. Et moi, mon caractère, ça a été de le faire brutalement, de but en blanc comme ça à ma mère. C'était ça ou rien. Je pouvais pas...
Mais vous êtes débarrassé à ce moment-là.
Oui, complètement.
Je voulais passer le bébé.
Mais elle l'a bien reçu, hein.
C'est déjà, c'est à mes yeux, c'était la personne la plus à même au monde à le recevoir, ce bébé empoisonné. Donc déjà, je savais à qui je le donnais. Et surtout, c'était pas vraiment que m'en débarrasser, c'était surtout me mettre face à mon propre miroir. C'est-à-dire que maintenant que je l'ai dit, je peux plus mentir. Parce que...
Tu peux pas revenir en arrière.
Voilà, j'étais dans le déni total. Et du moment où je le reconnais, du moment où on reconnaît les choses, où on se regarde dans un miroir, et donc on peut plus se mentir à soi-même. Et là, on est obligé de faire avec après. Parce que jusque-là, je faisais comme si c'était, rien, comme s'il n'y avait rien eu.
Alors, ce dont vous parlez, c'est une agression dont vous êtes victime.
Aujourd'hui, j'arrive à prononcer le mot, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas réussi. C'est un viol.
Oui, mais moi, vous voyez, j'ai même pas osé le dire. J'y vais à tâtons, je dis et agression, vous voyez.
Je vous remercie pour ce tact. Hein, c'est vraiment la plupart des gens. D'ailleurs, moi, j'avais peur de ça en dévoilant cette histoire, c'est que les gens sont trop brutal après quand j'en parle. Et finalement, les gens ont plus de tact que moi, parce que aujourd'hui, je suis capable d'en parler. Et eux, en retour, ben, ils ont beaucoup de tact. C'est très gentil. Hein, c'est vraiment, c'est une très bonne attitude.
On souffre avec vous dans le livre. Hein, faut le dire. Il y a beaucoup d'empathie dans le livre. Donc effectivement, votre histoire, après, on la vit et puis on comprend la descente aux enfers à partir du moment où on comprend ce qui s'est passé. Vous voyez, ouais. Parce qu'on lui donne un sens. Mmh. Ouais. Voyez, cette agression, vous l'oubliez.
Oui, complètement.
Vous amnésique.
Oui, à tel point que vraiment, je saurais même pas dire quand est-ce que c'est arrivé exactement. Mmh. Même encore aujourd'hui. Je me rappelle la période, c'est tout. Mmh. C'est fou, je sais même pas comment c'est possible de... alors après, j'ai une autre expérience personnelle, que j'ai eu un accident plus jeune de moto.
Oui.
Et un chirurgien à ma guérison m'avait expliqué que le cerveau était capable de tout oublier pour ne pas souffrir physiquement, etc. Mmh. Et en réalité, c'est fou, le cerveau, ce qu'il est capable de faire. Mmh. C'est-à-dire qu'on est capable de remonter le temps ou d'oublier du temps pour ne pas souffrir. Il y a des douleurs physiques qui sont mortelles. C'est ce que ce chirurgien m'expliquait. Mmh. Il y a des douleurs physiques qui sont tellement fortes que le cœur s'arrête, on fait un arrêt cardiaque, etc. Et en réalité, pour ne pas mourir de certaines souffrances physiques, le cerveau est capable de complètement oublier des choses. Mmh. C'est un truc de fou. C'est vraiment, on est presque dans une machine à remonter dans le temps, dans notre cerveau. Ça peut faire vraiment des gros, des belles histoires au cinéma, mais c'est un truc de fou.
Mmh. Alors, vous êtes victime de ce qu'on appelle, alors, techniquement, une agression en réunion.
Oui.
Tabassé, donc violé. On vous laisse... Je sais pas si c'est pour mort, mais en tout cas.
C'est. Bah moi, le premier souvenir que j'en ai déjà, c'est que je suis dans la rue et je suis dans le métro.
Devant une. Vous décrivez, oui, devant la.
Devant la grille du métro qui est encore fermée, donc ça doit être aux alentours de 5h du matin. Parce que les premiers métros, c'est 5h, 5h30. Et je suis devant la grille et je vois le mec qui vient ouvrir la grille. Et en réalité, là, je suis... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, je m'en suis rappelé longtemps après.
Oui.
C'est-à-dire que toute cette période-là, en réalité, j'en ai aucun souvenir au présent. Mmh. C'est-à-dire que je m'en suis souvenu longtemps après. J'ai eu quelques images, etc., ce qui me sont revenus. Mais c'est vrai que je rentre chez moi. Et ça, je m'en rappelle très bien, par contre, c'est que j'ai déchiré mes vêtements que j'avais sur moi.
Vous avez découpé.
Au ciseau. Ouais. En petites miettes, en paillettes. Et... Je les ai jetées toutes petit à petit en tirant la chasse. Toutes. J'avais un jean, une chemise, un boxer, une paire de chaussettes, tout ce que j'avais sur moi, au ciseau, petite paillette, et tout dans la chasse d'eau petit à petit. Mmh. Je me suis lavé et j'ai dormi. Et le lendemain, j'avais école.
Et vous êtes allé à l'école.
Et je suis allé à l'école.
Mais pourquoi vous le gardien de la paix, quand même, le gardien de la paix, vous ne pensez pas à porter plainte?
Non.
Après ce qui s'est passé
précédemment. Mais je sais pas, est-ce que voyez,
parce que déjà ce qui s'était passé précédemment, ça m'avait pas mal traumatisé, même si honnêtement c'était pas, aujourd'hui avec le recul, c'était pas non plus insurmontable, mais déjà à l'époque j'étais bien marqué par l'injustice que la justice m'avait fait offerte, mais et en plus je crois avant tout c'était surtout que je voulais oublier, je voulais même pas réaliser que c'était vrai. Mm. C'est
d'ailleurs plusieurs reprises.
Aujourd'hui, je suis capable de le dire comme ça, mais à l'époque, la question ne se posait même pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai même pas réfléchi à qu'est-ce que je fais. À l'époque, ça s'est fait naturellement. C'était je vais oublier de suite. Il y a rien eu, voilà. Mm. Et aller déposer plainte, aller en parler, c'est déjà dire qu'il y a eu quelque chose. Mm. Et enfin, c'est impossible. Ça m'était impossible dans l'état d'esprit dans lequel j'étais de le reconnaître. C'est pour moi, il y avait rien eu. Il fallait que j'oublie de suite. Et c'est ce que j'ai fait. Et pendant longtemps, j'ai pas... J'ai eu aucun souvenir pendant longtemps. C'est-à-dire que même certains souvenirs me sont revenus que pendant que j'écrivais ce livre. C'est fou.
Et sur la route ?
Et sur la route,
quand vous étiez sur le grand serpent de bitume,
sur le serpent de bitume, sur le Paris-Marseille, là,
ça revenait.
Ça revenait parce que j'étais dans un moment où je buvais plus le soir, où j'étais seul et où en plus j'étais fatigué sur la route et où mes angoisses prenaient encore plus d'ampleur. Parce que chez moi, j'évitais les angoisses avec l'alcool, etc. Et là, sur la route, je pouvais plus.
C'était Fanta, hein. Fanta pour tout le monde sur la route. Hein. Enfin, Fanta ou Coca-Cola, on va citer trois marques.
Et soda, beaucoup d'eau.
Et beaucoup d'eau. Voilà, David Nguyen est notre invité. Aujourd'hui, je rappelle le titre de votre témoignage hein, qui sort aujourd'hui. Il s'appelle Red Ampsion aux éditions du Nombre 7.
AVS revient dans un instant. h 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Nadia, nous recevons aujourd'hui David Nguyen. Merci d'avoir été notre invité, en tout cas d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de la sortie de Red Ampsion aux éditions Nombre 7. Red, c'est comme ce premier défi que vous vous lancez. Hein, voilà, cette aventure Paris-Marseille en roller. Ça fait plus de 100 km par jour hein, sur 9 jours. Voilà, des rencontres avec des gens incroyables. On se rend compte que les gens en France font pas forcément bien leur travail, que quand ils disent que Mâcon c'est à 22 km et que 3 km plus loin Mâcon est à 25 km, vous dites mais que fait donc la direction des départementales de l'équipement. Là vous vous retrouvez dans la France profonde, de la France où il y a pas de kebab à n'importe quelle heure,
hein,
où vraiment la France déserte.
Ouais, une France en plus que je connais mal, hein, finalement, comme beaucoup de gens, je me rends compte parce que, d'ailleurs, sur la route, je me suis rendu compte que partout, les gens ne connaissent pas beaucoup leurs environnements, les environs de chez eux.
Eux, c'est ou près ou loin.
Voilà, c'est ou c'est en bas de la rue à la boulangerie, ou loin, mais on y va en TGV ou en avion. Et dès que je demandais un chemin pour aller à 20 ou 30 km, là, ça devenait dur parce que les gens ne connaissaient même plus, même les villages à côté, ou comment ça s'appelle, les rues, etc. Et là j'ai découvert aussi certaines drôleries pour les panneaux que vous disiez. Et puis surtout j'ai découvert que
ça fait, bitume, je vais vous dire qu'à l'heure du GPS ça fait drôlement rigoler votre histoire.
C'est
hein.
Vrai.
Ça fait un peu amateur. Alors où vous partez avec un guide Michelin là où
ça fait grand amateur. D'ailleurs je continue à faire mes raids à roller sans GPS.
Vous avez un roadbook hein, quand même.
J'ai un roadbook que je prépare avant de partir.
Ouais.
Avec les villes, etc., où je devrais passer, etc., pour être sûr de garder le cap. Mais c'est vrai que je pars sans GPS parce que pour garder ce plaisir de l'aventure.
Oui.
Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le GPS, c'est très facile, on n'a qu'à se faire driver. Et moi, ce que j'éprouve comme plaisir sur la route, c'est aussi de découvrir.
Et puis d'être dérouté.
D'avoir des imprévus. Donc c'est vrai que l'aventure, après, voilà, chacun la vit comme il veut.
Le plaisir dans votre histoire. Il est venu après quand même. Il n'est pas venu au début.
Non.
Au début, c'était comme une brute.
À partir de 700 km, ouais.
C'est les endorphines qui travaillent.
À partir de Lyon, en réalité.
Ouais,
hein,
c'est ça.
De Lyon. C'est vrai que les premiers jours, je suis parti tellement dans l'optique de fuir et d'oublier que je suis parti trop vite. Parce que déjà, j'avais le sentiment que je n'arriverais pas à le faire. Donc je me disais, il faut absolument que je fasse beaucoup, sinon je n'arriverai pas. Et puis surtout, rouler, c'était. Je pensais pas. Donc je roulais, j'étais fatigué, j'avançais quand même. Et je m'épuisais. En réalité, ce raid-là m'a appris ce que c'est se ménager sa monture pour mieux. Pour aller plus loin. Parce qu'en réalité.
Si tu veux aller loin, ménage sa monture.
C'est exactement ça,
ouais.
Parce qu'en réalité, c'est à partir du moment où j'ai pris le temps que j'ai pris du plaisir à rouler et à découvrir les choses.
Et puis voilà que vous avez commencé à voir.
Et je me suis ouvert aux gens.
Ça a été,
ça a été une grande leçon pour moi dans cette aventure-là. C'est que au départ j'étais seul, tout seul. Je suis désolé. Et je me fermais aux gens, c'est-à-dire que vraiment, comme dans ma vie à ce moment-là où je me fermais à tout, où je voulais tout oublier et où je faisais semblant. À partir du moment où j'ai commencé à écouter les gens, à accepter leur aide et à apprécier leurs encouragements, etc., j'ai commencé déjà à réaliser que ça me faisait du bien de m'ouvrir aux autres. Comme ça m'avait fait du bien en parallèle, et c'est pour ça que j'ai fait le rapport, comme ça m'avait fait du bien de commencer à parler à ma mère. Et donc en réalité, c'est pareil dans la vie. Quoi. C'est, au plus, on s'ouvre aux autres, et au plus, on a de bien-être, parce que finalement, ça fait toujours du bien d'avoir l'avis des autres, même qu'ils soient bons ou mauvais, ou en tout cas de partager avec les autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports avec le fait de parler aussi sur l'agression.
Oui, il y a eu de belles rencontres sur votre route.
Il y en a eu des moins bien, mais il y en a eu des belles.
Oui.
Et c'est vrai qu'au petit à petit, c'est ce qui m'a donné confiance et ce qui m'a donné du bonheur aussi dans cette aventure. C'est que pour moi, tout le monde était mauvais. Parce que je vivais avec cette agression en moi, avec ce procès avant, avec plein de choses négatives. Et je me suis rendu compte que, bah, en fin de compte, il existait encore beaucoup de gens qui sont là à proposer leur aide, à proposer ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, un couvert, un toit, etc.
De la brioche, des fruits.
Ouais, oui. C'est vraiment
un lit.
Des choses simples. Et puis après, c'est pareil, des plaisirs simples. C'est vraiment. En plus, pour quelqu'un qui, à l'époque, je vivais à Paris, et pour ne plus y vivre, en plus, je m'en rends compte encore plus, c'est que Paris, pas Paris particulièrement, mais les grandes villes en général, amène toujours un côté très égoïste et superficiel à nos vies. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, parce que je suis pas, je juge personne, attention. Mais c'est vrai qu'on a un quotidien qui se façonne de façon très 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 routinière, à faire toujours les mêmes choses aux mêmes endroits avec les mêmes personnes. Et finalement, même si la cage est plus grande, on s'enferme dans une grande cage et on oublie finalement des choses simples. Et ce que j'ai commencé à redécouvrir à travers ce raid, même si c'était que le début et que j'en avais pas encore conscience, j'avais pas encore les mots. Mais c'est vrai que
c'est... parfois on va chercher le bonheur très loin alors qu'il est vraiment tout à côté. Hein.
Exactement. Oui. Ça, la route, c'est ce qui m'a. Au final, après beaucoup d'aventures à roller, c'est ce que j'ai retenu comme leçon. C'est que j'avais beau aller loin en roller, mais j'étais pas plus heureux que dans moi, enfin en moi, et que j'avais pas besoin d'aller loin pour le réaliser. Après, moi, j'ai eu besoin de le faire. Parce que j'ai eu besoin de cet effort physique, j'ai eu besoin de cette fatigue et de ces efforts, enfin, et de ces rencontres. Mais je pense que quelqu'un qui aurait un autre caractère ou une autre façon, une autre logique de penser, le ferait seul chez lui en méditant sur son lit, quoi. Il réaliserait qu'il est heureux tout seul parce que il est bien en lui, il a ce qu'il faut pour être heureux, etc. Donc c'est vrai que.
Et vous aviez une petite étoile qui vous suivait durant ce trajet-là.
Je pense que j'en ai eu plein en fait des petites étoiles.
Mais une qui est importante pour vous.
La coccinelle.
Au-delà de la coccinelle, votre maman.
Ah oui, non mais
votre maman,
ça, c'est...
qui depuis la Réunion avait organisé.
Ça c'était rigolo.
Et avait organisé donc.
Mais ma mère en fait était loin, donc elle me voyait pas, elle était à la Réunion. Et ce que je découvre,
Non, allez-y.
Ce que je découvre, c'est que...
C'est à Nadia que je fais le geste.
ce que je découvre, en fait, c'est que pour me suivre et pour avoir des nouvelles de moi tous les jours, en fait, elle avait appelé une radio locale à La Réunion pour que cette radio-là m'appelle tous les jours.
Le fil rouge.
Ouais, et ils m'ont pas eu au premier jour, parce que peut-être que j'avais pas répondu, ou peut-être le temps qu'ils réalisent l'info. Mais à partir de, je crois, au troisième jour, ils m'ont appelé. Et après, à partir de là, ils m'ont appelé tous les jours pour avoir un compte rendu en direct à la radio. Et ce qui faisait plaisir à ma mère d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, parce que les encouragements, de toute façon, qu'ils soient d'un petit passant qu'on croise ou d'une radio ou de n'importe qui, ça porte, c'est vraiment quelque chose de. On se sent encore, il y a quelqu'un qui nous regarde et on va encore plus relever le défi pour faire plaisir à ces gens-là, pour ne pas les décevoir. C'est toujours pareil, comme tout à l'heure je disais, le besoin d'avoir des témoins pour avancer.
Alors, après l'agression dont vous êtes victime, pour vous réparer d'une certaine façon, vous éprouvez le besoin de faire souffrir les autres.
Alors ça, c'est un volet qui est...
Ben oui, mais c'est en fait... c'est parce que quand on parle de la bascule et de la descente aux enfers, vous avez, là, à ce moment-là, vous dites, vous mettez, parce que vous employez le mot, vous dites, je me mets à côtoyer le diable.
Ah oui, complètement.
Satan. Ouais.
Ben en fait, je me sens le diable. Je me sens que je le suis.
Non, vous dites que vous le dépassez même.
Oui, je dis que je le surpasse. C'est dans le premier chapitre et deuxième chapitre du livre. Je raconte qu'en réalité, non seulement je suis dans le déni, mais en plus, je veux complètement le dépasser. Et en réalité, je...
Pour vous réparer d'une certaine façon.
Ouais. Alors c'est un peu...
Est-ce que vous vouliez faire subir aux autres ce qu'on vous avait fait subir à vous ?
Je ne pense pas que ce soit clairement comme ça que je le pose. D'ailleurs, je ne le pensais pas consciemment. C'était plus un état de colère, un état de haine. Et j'avais tellement de haine en moi qu'en réalité, je le dis dans mon livre, c'est que j'avais besoin de voir qu'il y avait plus sale que moi pour me sentir moins sale.
Et là, je m'adressais à la sexologue parce que, en fait, vous dites que ça va crescendo.
Ouais.
C'est que finalement... Le cerveau ne s'habitue jamais à ce qu'il a. Il en veut toujours plus.
Je pense que la sexologue pourra peut-être rejoindre mes propos. C'est qu'en fait, le sexe devient comme une drogue.
C'est ce que j'allais dire. Ça devient une addiction, en fait.
Et le sexe, à ce moment-là, devient une drogue. Et alors que on pourrait croire que le sexe me répulse, en réalité, je deviens le boucher après avoir été l'agneau. c'est pas ce que je ferais aujourd'hui parce que je suis plus comme ça, mais à l'époque j'ai eu le besoin, en fin de compte, moi, d'être celui qui fait mal plutôt que d'être celui qui a mal, parce que pour moi c'était binaire, il y avait où on a mal, où on fait mal.
Et parce que finalement votre livre, c'est la façon dont vous vous êtes sorti de cette addiction.
Oui.
Tout ce chemin que vous parcourez jusqu'à Marseille, bah c'est ça. J'ai presque envie de vous dire, c'est votre cure de sevrage.
Je suis content que vous en parliez parce que ça me donne le fil pour le faire. Mmh. C'est que au final, ce qui ressort, ce qui me sort de tout ça, c'est l'amour dans tous ses sens. C'est-à-dire l'amour des autres. L'amitié, l'amour sous la forme de solidarité ou de générosité des gens que j'ai rencontrés, et l'amour des femmes qui m'ont aimé, et l'amour surtout
que
j'ai eu pour moi-même.
Oui, il y a un problème que vous avez appelé
des mille et une d'ailleurs. Et l'amour que j'ai eu pour moi, c'est-à-dire que j'ai retrouvé. Mais c'est vrai qu'avant d'avoir cet amour-là, j'ai eu recours au sexe, enfin, aux rencontres sexuelles. Parce que c'était pour moi déjà une première façon, où je vous disais tout à l'heure, de ne pas dormir seul. Ça a commencé comme ça. Je dormais pas seul, je dormais chez des filles.
Par une gentille cougar qui vous a gentiment laissé combien dans l'enveloppe?
À l'époque, en plus, je fais mon premier presse de gigolo sans le vouloir. Elle m'a laissé 300 euros. Mmh. Et en plus, j'ai rien demandé. C'est vraiment moi, elle m'a accosté dans le même quartier où je traînais tout le temps pour boire. C'est vraiment tout bête. Hein. Un feu rouge, elle s'est arrêtée, elle a ouvert la fenêtre, elle m'a fait salut, et je salue, et je suis monté dans sa voiture, et puis on est allé chez elle. Et là, je me suis rendu compte que finalement, c'est bien. Je dormais pas dehors, je dormais au chaud. Et en plus, j'étais avec une femme. Donc, j'avais un câlin, un peu de tendresse. Et, même si c'est brutal, mais c'était un peu une façon d'être aimé. Même si, attention, c'est pas de l'amour comme on peut l'entendre. C'était, mais en tout cas, c'était une présence, une compagnie.
Alors que les femmes qui voulaient vous donner de l'amour, on va dire soft, parce qu'il y en avait,
ouais.
Vous le refusiez.
Au début, ça me faisait peur. Parce que ça dévoilait mon côté... plus gentil, mon côté plus naturel, plus le vrai David que j'étais.
Celui qui vous permettait finalement de dégager.
Comme on n'a pas envie de mentir à ceux qu'on aime, j'avais pas envie de leur mentir et je me sentais presque obligé de leur dire qui j'étais, ce que j'avais souffert. Et comme je voulais pas, parce que j'étais dans une période où je voulais vraiment plus oublier, elle me faisait peur et donc je l'ai quitté. Parce que... il était hors de question pour moi d'aller d'accepter. Et comme vous disiez d'ailleurs, c'était c'était pas conscient à l'époque, mais en tout cas, je n'avais pas aucun défouloir.
Comment est-ce que vous avez eu conscience et pris conscience que vous aviez retrouvé votre amour propre, vraiment dans le sens
Alors déjà il a fallu que j'aille aux frontières de l'acceptable pour moi dans les relations que j'avais à l'époque des aventures. C'est-à-dire que c'est allé tellement de pire en pire dans le côté trash et sale de la chose que à un moment donné j'ai eu j'avais une aventure. Pff, on peut passer une aventure. Est-ce qu'on peut tout dire? On peut tout dire à l'antenne?
Ah non. Non. J'aimerais, mais non.
Bon, en tout cas,
j'aimerais parce que je connais l'aventure et
oui.
Mais à ce moment-là, puisque cette femme elle se fait dominer hein, de toute façon.
Ah oui, elle est extrême.
Elle est vraiment extrême.
Et en réalité, elle me fait penser que finalement tout ce qui peut, la dernière chose où je peux aller un peu plus loin, c'est le crime.
Mais comment vous savez que là c'est la borne en fait? C'est ça que moi qui
je sais pas pourquoi, parce que peut-être que j'ai un fond en moi qui ne veut pas aller sur ce que moi je pense être mal.
Vous saviez que c'était de la limite en fait?
Pour moi c'était la limite, c'était vraiment voilà, là je fais plus semblant, soit je tue et c'est vraiment un crime, ou soit je tue pas et je suis obligé d'aller dans le sens inverse. Et c'est pour ça qu'à partir de là j'ai commencé à aller dans le sens inverse. À partir de là j'ai commencé à parler, à partir de là j'ai commencé à apprécier à nouveau un petit peu les compagnies qui me voulaient du bien, qui m'aimaient sincèrement, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à réaliser que c'était vraiment ça que je voulais, et pas le mal. Et c'est vrai que je peux pas vous dire pourquoi je savais que c'était ma limite, mais je sentais qu'il fallait pas que j'y aille.
Et la suite, elle est sur la route. Hein. Paris-Marseille, 1000 kilomètres. Voilà, sur ce serpent de bitume là qui vous accompagne. Ouais. Merci David Nguyen d'avoir été notre invité beaucoup. Ce matin, d'avoir partagé votre histoire. Merci Nadia.
Merci.
Et on se retrouve. Merci. Ouais. On se retrouve mardi prochain.
Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.